Je vais vous inviter ce matin, s'il vous plaît, à faire une première lecture dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 14. Évangile de Matthieu, chapitre 14, et nous lirons un verset. Il dit ceci dans le verset 22. Matthieu 14, 22. Ensuite, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Amen. Je vais vous inviter à une deuxième lecture dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4. Marc, chapitre 4. Et le verset 25 et 35, pardon. Marc chapitre 4, verset 35. Nous lirons également là un verset. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Je vous invite à faire une dernière lecture dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5, et nous lirons à partir du verset 1er. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac deux petites barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, Pierre, et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : avance en eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, Simon-Pierre bien sûr, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes, ou tu prendras des hommes vivants. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. Je pense que sur cette histoire de la pêche miraculeuse, il y en a déjà eu quelques prédications là-dessus. Hein? Et certainement que ce matin, vous allez réentendre des choses que vous avez déjà entendues et que vous connaissez déjà. Mais je crois que la parole de Dieu est d'une telle richesse que lorsqu'on la lit, elle est intarissable. Parce que nous savons que c'est la parole de Dieu et que cette parole est vivante et que celui qui est l'auteur de cette parole est vivant et qu'il saisit chaque parole pour parler à nos cœurs. Nous voyons dans ce texte l'histoire d'un homme dans la barque duquel le Seigneur va entrer et lui demander de s'éloigner du bord. Il y avait là deux barques, mais c'est celle de Simon que Jésus choisit. Juste pour rappeler, frères et sœurs, que nous sommes des hommes et des femmes choisis de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes choisis de Dieu, élus de Dieu? Le président de la République, c'est nous qui l'avons élu. C'est tous les Français ont voté, même s'il y en a quelques-uns qui ont fait l'impasse là-dessus, mais néanmoins, c'est le droit de tout le monde. Mais en ce qui nous concerne, c'est le Seigneur qui nous choisit, quelle que soit la manière dont nous sommes venus. Mais le Seigneur nous a choisis. Il dira lui-même à ses apôtres, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Alléluia. Nous sommes donc, frères et sœurs, le choix de Dieu. Et si Dieu nous choisit, c'est bien dans un but précis. Bien sûr, la première chose la plus importante, c'est d'être sauvé. Alléluia. Mais, frères et sœurs, la parole de Dieu nous fait connaître que Dieu a préparé d'avance des œuvres pour chacun afin que nous les pratiquions. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans les œuvres que Dieu a préparées pour vous? Je crois que c'est une bonne question, ça. Est-ce que je suis dans les œuvres pour lesquelles Dieu m'a choisi? En tout cas, en ce qui concerne Pierre, ce jour-là, lorsque le Seigneur se présente à lui, quand on lit les Écritures, ce n'est pas la première fois qu'il se rencontre avec le Seigneur. Puisque dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er, on voit que là, André a amené son frère vers Jésus. Mais cette fois-ci, c'est le Seigneur qui vient vers Pierre. Pierre ne sait pas que cette rencontre va bouleverser et changer complètement sa vie et le cours de sa vie et sa destinée. Frères et sœurs, la manière dont Dieu vient dans notre vie, dont le Seigneur entre dans notre vie, n'est pas anodine. Elle peut arriver d'une manière tellement simple. Un simple prospectus, une invitation, où on a écouté un message à la radio, où on est allé sur Internet, quel que soit, eh bien, le Seigneur se présente à nous comme il l'a fait pour Pierre. Et Pierre, en accueillant le Seigneur dans sa barque, il ne sait pas, nous le savons, parce que nous avons l'histoire. Mais Pierre ne sait pas que cette rencontre va changer complètement sa vie. Mais pour que cette vie soit complètement changée, il va y avoir quelques étapes tout de même. Nous avons lu les trois histoires. Dans ces trois histoires, Pierre se trouve. Et je crois que nous pouvons, frères et sœurs, voir la vie de Pierre comme notre vie également. Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce que le Seigneur me choisit? Parfois, on n'a pas la réponse. Mais la principale, c'est parce que Dieu nous aime. Et parce que Dieu veut changer notre vie. Alléluia. Parce que Dieu a de l'intérêt pour notre vie. Et parce que Dieu a toujours mieux à nous offrir. Quel que soit notre âge, hein, on pourrait dire, oh, passé la soixantaine, je suis déjà à la retraite. Ça, c'est bon pour les jeunes. Hein? Je crois que si on fait de telles réflexions, le Seigneur peut nous envoyer vers Abraham, par exemple. Hein? Quand tu as presque 100 ans, il va lui dire, attends de ton pays. Hein? Ou bien nous orienter vers Caleb, ou Josué, Moïse. Et il va lui demander une chose, s'il peut s'éloigner un peu du bord. Voilà. Et Pierre, en s'exécutant, il est en train de rentrer dans le processus de changement, de transformation que Dieu va faire et opérer dans sa vie et dans le projet de Dieu pour sa vie, frères et sœurs. Et je crois qu'à des moments donnés de notre vie, frères et sœurs, Dieu nous appelle toujours à nous éloigner toujours de quelque chose. Et nous savons, frères et sœurs, que le Seigneur nous appelle toujours à nous éloigner de la terre, à nous éloigner du monde, et parfois même à nous éloigner de notre environnement. Parce que sans cela, nous ne serions pas en mesure de vivre le projet de Dieu pour notre vie. Et le fait que Pierre va s'éloigner, il va disposer sa vie à être à l'écoute de Dieu. Frères et sœurs, on gagne toujours à obéir à Dieu, même si cela va à l'encontre de ce que nous pouvons penser. Mais ici, le Seigneur peut nous appeler à quitter la bande de nos amis, nos parents, l'Église même dans laquelle nous sommes nés, ceux que nous aimons, parce que Dieu veut nous emmener sur le voyage que lui-même il a prévu pour nous. Voici comment commence donc, eh bien, cette vie de Pierre. Nous n'allons pas faire le tour complètement, mais c'est pour nous dire, frères et sœurs, que je crois que quand... si nous voulons entrer dans les projets de Dieu, il y a parfois des séparations. Et sans cette séparation, eh bien, il y a des interférences qui font que nous ne sommes pas complètement disposés à entendre la voix de Dieu. Et là, le Seigneur va enseigner la foule à partir de la barque de Pierre. Pierre est dans la barque aussi, bien sûr. Après, c'est ça, je crois qu'il y a une chose importante aussi. C'est celle d'être toujours prêt à être instruit et à être enseigné. Et quand on est dans un tel état de cœur, même quand on n'a pas tout compris, eh bien, Dieu nous conduit dans le chemin qu'il a préparé pour nous. Et il nous est rapporté dans le livre des Actes un homme. Il dit ceci, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Et là, c'est ce qui nous intéresse. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Alléluia. Bien que cet homme soit quelqu'un qui soit versé, instruit dans les Écritures, il s'est laissé instruit et enseigné. Et il sera par la suite, bien sûr, rappelé plusieurs fois, un canal de bénédiction pour l'Église de cette époque. Dans cette barque, donc, le Seigneur enseigne la foule. Mais vous savez bien, frères et sœurs, que le propriétaire de la barque, il est aussi enseigné. Il est à l'écoute. Le fait qu'il se soit éloigné, se rendre disponible pour le Seigneur, va faire qu'il va être enseigné. Et Frères et sœurs, le fait de se laisser enseigner, de se laisser instruire, nous met sur le chemin de la foi. La foi véritable vient des paroles de Christ, vient de la parole de Dieu. Et lorsque nous nous laissons enseigner, nous sommes en train de cheminer sur le chemin de la foi. Se laisser enseigner nous permet de passer aux étapes suivantes. Si on ne se laisse pas enseigner, on ne peut pas progresser ni avancer. On peut avoir le désir, l'envie de servir Dieu, mais ce qui est important, c'est de se laisser enseigner. Parce que c'est cela qui va amener dans notre vie les aptitudes à servir notre Dieu. Alléluia. Lorsqu'une église se laisse enseigner, eh bien, elle se rend disponible pour servir Dieu. Et cela est valable aussi pour chacun d'entre nous. Pierre, en obéissant, sans le savoir, s'est déjà engagé dans le plan de Dieu pour sa vie, pour sa famille. En obéissant, il se met dans une disposition qui le rend enseignable. Et nous voyons dans les Écritures, par exemple, dans le livre d'Osée, il dit ceci, « C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur en ce qui concerne le peuple d'Israël. » Lorsqu'on se laisse conduire, alors Dieu parle à notre cœur. Et dans les Évangiles, à maintes reprises, on voit que le Seigneur va conduire les disciples à l'écart. Et là, en privé, il va tout leur expliquer en ce qui concerne les paraboles. Et combien, frères et sœurs, lorsque nous mettons notre vie à la disposition de Dieu, eh bien, frères et sœurs, la foi prend forme dans notre vie. Oui, une barque peut être comparée à notre vie. La barque peut parler également du couple, mais la barque ne peut parler également de l'Église que nous sommes. Et ainsi, lorsque Pierre, à la suite de cet enseignement, lorsque le Seigneur va lui dire « Avance en eau profonde et jette le filet », Pierre, je ne sais pas si vous avez déjà pêché pendant toute nuit. Moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises avec des amis de pêcher pendant toute une nuit. Et quand on n'a rien pris, laissez-moi vous dire qu'on n'a pas trop envie de faire autre chose. Hein? Quand on a passé une nuit blanche et puis qu'on n'a rien attrapé, on n'a pas envie de faire autre chose. Mais ici, ce qui nous est dit ici, c'est que Pierre, il avait vraiment une disposition de cœur, toujours prêt certainement à aider, à rendre service, qui fait que lorsque le Seigneur lui demande, eh bien, Pierre va s'exécuter. Et en s'exécutant, eh bien, il amène dans sa vie la bénédiction, qui va être également une bénédiction pour les autres. Frères et sœurs, l'obéissance nous amène toujours à progresser. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Je ne vous dis rien d'autre de nouveau si je vous dis que nous, chacun d'entre nous, nous avions été des rebelles, des insoumis à Dieu. Et si aujourd'hui nous pouvons dire gloire à Dieu, c'est parce que Christ lui-même s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est parce qu'il a quitté son ciel de gloire, même si c'est pour un peu de temps. Mais parce qu'il a quitté son ciel de gloire, eh bien, le Seigneur lui-même nous a amené le ciel à notre portée. Dans les évangiles, nous lisons, lorsque le Seigneur va commencer sa prédication, il va dire, le royaume de Dieu s'est approché. Dieu met au travers de Christ, eh bien, son royaume à la hauteur des hommes, pour nous permettre, frères et sœurs, d'avoir accès. Et c'est vrai que l'obéissance et la soumission, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. C'est un état de cœur qui plaît à Dieu. C'est vrai, il y a ce que nous faisons pour Dieu, mais ce qui plaît particulièrement à Dieu, frères et sœurs, et qui favorise la foi, c'est notre obéissance et notre soumission. Et dans le livre de Samuel, Samuel va dire à Saül, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ?» On pourrait dire aujourd'hui, dans ce que nous accomplissons comme action, comme service, etc., comme œuvre, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Frères et sœurs, obéir à Dieu, c'est vraiment dans notre intérêt. Parce que Dieu veille sur notre intérêt. Même si cette obéissance, nous verrons, je ne sais pas si j'aurai le temps de développer tout ça, mais même si cette obéissance va nous conduire dans des situations difficiles, mais ces situations difficiles vont être des sources de bénédiction pour notre vie. Ainsi donc, Pierre, parce qu'il a été à l'écoute, parce qu'il a mis sa barque à disposition du Seigneur, parce qu'il s'est éloigné du bord, eh bien, il est maintenant en mesure de vivre un acte de foi. Et lorsque le Seigneur va dire « Allez en eau profonde, va plus loin », eh bien, Pierre est maintenant en mesure d'aller plus loin, alors que il vient de passer une nuit blanche. Il va maintenant entrer, s'exécuter par rapport à la parole du Seigneur, et Pierre, en s'exécutant, entre dans le monde de la foi, du miraculeux, où la foi l'emporte sur la raison. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Telle a été l'expérience de Pierre et de ses amis. Mais il va dire, « Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Cette deuxième partie est la conséquence de l'enseignement qu'il a reçu plus tôt en mettant à disposition sa barque. Frères et sœurs, lorsque nous mettons à la disposition de Dieu notre vie, lorsque nous nous laissons enseigner, eh bien, nous entrons dans ce monde de la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés, frères et sœurs. Et notre vie ne se base pas sur ce que nous voyons ou ce que nous entendons, mais sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, ainsi donc on ne s'appuie plus sur la raison ni sur l'expérience. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça c'est l'expérience. Mais on s'appuie sur la parole de Christ. Sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. C'est pas beau ça, frères et sœurs? Nous connaissons la suite. Ils ont pris une telle quantité que les deux bateaux étaient sur le point de s'enfoncer, les deux barques. Alléluia. Je voudrais, frères et sœurs, passer à l'autre texte. Ce même jour, nous est dit dans Marc chapitre 4, Jésus va dire à ses disciples, « Passons sur l'autre bord. » Nous connaissons la suite, ils vont essuyer une forte tempête. Hein? Pourtant, c'est le Seigneur qui leur dit, « Passons sur l'autre bord. Hein? » Et en obéissant, eh bien, ils vont tout droit dans une tempête. Frères et sœurs, un cyclone, c'est déjà terrible quand on est à terre. Mais en mer, c'est pire encore. Mais le Seigneur va les conduire. Et là, en s'exécutant, frères et sœurs, ils entrent dans le monde de la foi en la toute-puissance de Dieu. Et c'est dans cette direction que Dieu veut nous conduire, que nous réalisons que notre Dieu, il est tout-puissant. Il a tout pouvoir, toute autorité. Et frères et sœurs, si nous lisons Marc chapitre 4 et Marc chapitre 5, il y a là quatre histoires qui se suivent. Aussi bien celle-ci que nous avons, nous introduisons dans passant de l'autre bord, et après il y a donc, lorsqu'ils ont traversé la mer, il y a le démoniaque de Gadara qui a été libéré de milliers de démons, hein? Et puis quand ils ont repris la mer, eh bien il y a cette femme qui est venue par derrière, qui a touché le bord du vêtement de notre Seigneur et qui a été guérie, ainsi que Jaïrus, eh bien sa fille a été ramenée de la mort à la vie. Oui, notre Dieu, il a tout pouvoir, toute autorité sur les éléments. Il a tout pouvoir et toute autorité sur le diable et son armée. Il a tout pouvoir et toute autorité sur la maladie. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il a toute autorité et tout pouvoir sur la mort. Alléluia. Mais c'est dans ce monde que lorsque nous mettons à disposition notre vie, le Seigneur nous fait entrer. Alléluia. Où le Seigneur nous apprend à dominer les soucis, les inquiétudes, à ne pas se laisser impressionner par notre environnement, par les circonstances de la vie, par les situations que nous pouvons traverser, que ce soit pour la nourriture ou le vêtement, il dira, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, ni de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et si Salomon, eh bien, même dans toute sa richesse, il n'a pas été vêtu comme les lys des champs, combien plus, frères et sœurs, nous sommes importants pour Dieu. Ou bien dans les persécutions, il dira, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Ni pour les besoins, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nous entrons dans le monde de la toute-puissance de notre Dieu où toutes les parcelles possibles de notre vie, eh bien, Dieu veut agir. Alléluia. Mais il y a également dans cette histoire une chose, je crois, qui est importante. Parce qu'il va leur dire, où est votre foi? Dans cette histoire, le Seigneur va les conduire dans une tempête afin de leur révéler la réalité de leur foi. Frères et sœurs, notre foi se mesure lorsque nous sommes face à une difficulté. C'est facile de dire Alléluia en début de mois, mais parfois en fin de mois, c'est un peu moins facile, c'est vrai, je l'admets. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia, c'est vrai. Mais c'est là où, frères et sœurs, nous pouvons nous attendre à l'Éternel. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Alléluia. Oui, notre Dieu, s'il nourrit les oiseaux du ciel, frères et sœurs, nous sommes plus que les oiseaux du ciel. Mais ce que je voulais dire, frères et sœurs, c'est que pendant qu'ils sont en train de s'inquiéter, lui, il dort. Vous trouvez ça normal, vous? Hein? Pendant que tout le monde s'agite, hein? Pour écoper, pour essayer de ramener la voile qui est peut-être déchirée, je ne sais pas. Lui, il dort. Et la barque est en train de prendre de l'eau. Hein? Et on ne voit pas le bord parce que c'est en pleine nuit. Vous voyez? C'est pour rendre encore la difficulté plus difficile encore. On ne voit pas le bord, ça s'agite, on prend l'eau. Dans quelle direction s'il faut commencer à nager? On va. Hein? Eh bien, frères et sœurs, parce que le Seigneur, il sait que la barque ne coulera pas. Quand le Seigneur, il est dans la barque, elle ne coulera pas. Vous avez des difficultés dans votre foyer? Est-ce que Jésus est dans votre foyer? Vous avez des difficultés à vous entendre, hein, à communiquer, des problèmes, des soucis qui amènent les relations difficiles dans le foyer. Si Jésus est dans votre barque, parlez-lui. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Cette difficulté que vous pouvez vivre, elle n'est pas pour la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais ça dépend de la manière dont vous la percevez et dont vous la vivez. Est-ce que Dieu veut nous faire, c'est nous conduire dans le repos. Si lui se repose, reposons-nous sur lui. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Par sa mort, Christ, par la mort de Christ, nous sommes identifiés à la mort de Christ et nous sommes identifiés également à sa résurrection. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Alléluia. Oui, nous pouvons nous reposer donc complètement sur lui. Oui, frères et sœurs, c'est pour dire que passer dans l'autre bord, il y a des étapes. Ne restez pas toujours sur l'étape d'il y a 5 ans. Notre vie est appelée à progresser. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas beaucoup d'amen là. Ouais. Mais c'est pour dire, frères et sœurs, que nous devons désirer, grandir, progresser. Quand on commence à stagner, la régression n'est pas loin. Voilà. Nous devons progresser, même si parfois nous progressons beaucoup moins vite que cela l'était au départ, mais avançons toujours, de progrès en progrès. Alléluia. Dans cette dernière partie dont nous avons parlé tout à l'heure, frères et sœurs, j'ai parlé dans cette deuxième partie de la foi qui nous fait rentrer dans le repos de Dieu. Voilà. Si Dieu a prévu ce repos. Vous regarderez, je crois, c'est dans le livre de... On ne va pas le lire aujourd'hui, mais dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 3, voilà. Il nous parle du repos de Dieu. Je voudrais aller à cette dernière... de Matthieu, chapitre 14, où il est dit dans ce chapitre 14 que le Seigneur obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde ces 3 textes, on voit qu'on est toujours appelé à quitter. Voyez? Voilà. Toujours appelé à quitter. Mais vous savez que quitter, c'est jamais facile. Hein? Déjà, on a mis du temps pour se faire des amis, et puis maintenant qu'on est bien assis, Seigneur, tu nous dis, quitter. Il faut recommencer encore. N'est-ce pas, Jonathan? Bon. Mais c'est pour dire, frères et sœurs, que, voilà, parfois, on finit par rentrer dans la routine. Et c'est difficile de quitter. Et l'homme, naturellement, aime la routine. L'homme n'aime pas le changement. Hein? Voilà. Et parfois, le Seigneur va obliger un petit peu le changement. Hein? Voilà. Et ici, il va les obliger à monter dans la barque avant lui. Pourquoi le Seigneur a-t-il obligé ses disciples? Il y a certainement plusieurs raisons. Je vais vous en donner quelques-unes. Et, frères et sœurs, j'espère qu'au travers de cela, vous et moi, nous serons fortifiés et encouragés. Alors, l'un des aspects que j'ai relevé ici, c'est vrai, dans l'histoire précédente, Jésus était dans la barque. Hein? Voilà. Cette fois-ci, il n'est pas dans la barque, mais il les a obligés à partir. Seigneur, c'est un parfait pédagogue. Hein? Voilà. Dans les 2 premières parties, il est dans la barque. Il donne les ordres, mais de la barque. Dans la 2e partie, c'est vrai, il ne parle pas, mais il est là, il est dans la barque, vous voyez? Quand on sait que c'est quelque part, on est toujours plus ou moins rassuré, mais quand on est tout seul, c'est moins rassurant. Hein? Heureusement que le Seigneur, il a toujours des solutions. Hein. Voilà. Mais ce que je veux relever ici, c'est que, et je me suis aperçu avec le temps que c'est quelque chose qui mène quand même une vie dure aux chrétiens. Hein. Voilà. C'est pour vaincre les croyances. Alors, peut-être pas ici, mais voilà, je vais parler de la Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, on a des croyances en ce qui concerne la mer, par exemple, en ce qui concerne la rivière, certains lieux, etc. Il y a parfois des rites qu'il faut faire pour passer dans tel endroit, et à tel moment, il ne faut pas passer, c'est dangereux, etc. Donc, ce sont des croyances qui restent. Mais ce n'est pas qu'en Nouvelle-Calédonie, hein, même en France aussi, il y en a. Hein. Voilà, oui. Même aussi en France, il y en a, et parfois même en France, ça a la vie dure. Hein. Voilà. Et ici, les disciples, ils ont des croyances en ce qui concerne la mer de Galilée. Hein? Parce que quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, ce n'est pas Jésus qu'ils ont vu, ils ont vu un fantôme. Voyez? Ce sont les croyances qui sont là. Et le Seigneur veut les amener à être libérés, délivrés de ces croyances qui font la guerre à l'âme parce qu'ils sont bien incrustés dans la culture, etc., dans le paysage, etc. Oui, frères et sœurs, on dit qu'on croit en Dieu, mais je dois l'avouer que parfois on ne lui fait pas confiance. Je répète ce que j'ai dit. On dit qu'on croit en Dieu, et je crois que tous nous croyons en Dieu ici. Mais dans des situations, eh bien, parfois on ne lui fait pas confiance. Et parfois, on dit, ça c'est le diable qui a fait ça. Hein? Vous n'êtes pas arrivé ça? Alors, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai eu l'occasion de discuter avec... une sœur, je ne vous dirai pas où, partager ses difficultés, etc. Et puis, raconter une histoire, je me suis dit, quoi, en France, on pense à ça encore? Moi, je pensais que ce n'est que dans les pays en dehors. Mais elle se dit, voilà, elle a perdu tous ses papiers, et quand elle est, parce qu'elle est étrangère, et quand elle a perdu tous ses papiers, donc pour refaire tous ses papiers, il faut rappeler dans son pays d'origine, demander à refournir, etc. Et là-bas, quelqu'un lui dit, un chrétien, lui dit, c'est quelqu'un de ta famille qui est venu d'une manière spirituelle voler tes papiers, mais je vais faire en sorte que cela te soit restitué. Entre-temps, elle avait fait les démarches. Donc, une semaine ou 15 jours après, elle a les papiers qui sont là et elle se dit, c'est vrai, hein? En fait, ce que la personne m'a dit. Voyez, c'est ça les croyances. On croit en Dieu, mais on croit plus au diable. Et ça, c'est pas normal, ça. Et Dieu, parfois, en nous forçant à entrer dans des situations, veut œuvrer à nous libérer de ces croyances qui sont des chaînes, des liens qui nous empêchent de progresser dans la foi véritable au Fils de Dieu. Je dois dire même, frères et sœurs, qu'il y en a qui ont une foi mystique. Voyez? Alors, je vais mettre ça entre guillemets. Par exemple, dans l'Écriture, il nous est parlé du serpent d'airain. Il a été un instrument de délivrance pour Israël. Mais avec le temps, il est devenu un objet de culte. Ils ont commencé à adorer le serpent d'airain. Alors, c'est pour dire, frères et sœurs, que il y en a qui pensent, parce que ça s'est déjà passé, mais c'est l'exemple qui me vient à l'esprit, ils pensent qu'en prenant la Sainte Cène, ils vont être guéris. C'est vrai qu'il y a des témoignages qui sont allés dans ce sens-là. Mais la parole de Dieu ne dit pas ça. Vous comprenez? Alors, on commence à croire que. Voyez? Ou bien, il y en a qui pensent que en s'engageant dans les eaux du baptême, ils vont être libérés, délivrés. Mais non, l'eau du baptême, c'est un engagement. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans certains baptêmes, mais la parole de Dieu ne dit pas ça. Donc notre foi, frères et sœurs, elle doit être basée sur la vérité de la parole. Pas sur les expériences qui ont été vécues ici ou là. Sur la parole. Sinon, on commence à entrer dans une foi qui est mystique, et celle-là, ce n'est pas la foi véritable. Frères et sœurs, quand le Seigneur nous amène et nous oblige parfois, comme ça a été le cas ici pour les disciples, ça a été pour les libérer d'une croyance. Parce que parfois on croit, mais les démons aussi y croient. Sauf que eux, ils tremblent, parce qu'ils savent l'issue. Et ce n'est pas cette foi-là que le Seigneur veut nous amener à trembler, à avoir peur tout le temps. Pour ça, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. J'admets, frères et sœurs, que dans des situations, on est bouleversé. On ne sait pas, on a perdu complètement le nord ou la tête, on ne sait plus vers où. Il n'y a qu'une chose à faire. Entrer dans sa chambre ou chercher un coin tranquille et dire, Seigneur, je suis complètement perdu, j'ai besoin que tu me conduises, j'ai besoin que tu me secours, j'ai besoin que tu m'aides. Et frères et sœurs, dans cette situation, une fois que Pierre a reconnu que c'est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Allez, qu'est-ce qu'il a fait Pierre quand il a reconnu que c'est Jésus? Voilà, il a marché sur la mer. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alors, si vous avez remarqué dans les deux précédentes histoires, c'est le Seigneur qui ordonne, qui dit. Mais ici, c'est Pierre qui demande. La foi de Pierre a augmenté. Jusque-là, il a obéi. Mais ici, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si toi tu marches sur les eaux, ben moi aussi je peux, si c'est toi qui le dis. Alléluia. Frères et sœurs, je crois que Dieu veut nous donner de vivre la victoire. Alléluia. De marcher sur la parole que le Seigneur nous donne. Et frères et sœurs, les promesses de Dieu, elles sont innombrables dans la parole. Et il y a toujours au minimum une promesse qui correspond à notre situation, que Dieu a déjà préparé depuis des décennies pour nous, pour toi, pour que cette promesse, tu la vives à un instant précis où l'Esprit va te rappeler cette promesse. Frères et sœurs, marchez par la foi. Et j'avoue que ce n'est pas chose facile. C'est facile de dire, mais le vivre, c'est autre chose. Mais si le Seigneur nous demande, c'est parce que nous pouvons, avec sa grâce et son assistance. Frères et sœurs, le Seigneur va nous obliger même parfois à sortir un peu de notre zone de confort. Voilà. Obligé à sortir de notre zone de confort pour nous amener à nous aventurer, mais sur la parole de Christ. Alléluia. Je terminerai, frères et sœurs. Vous savez ce que le Seigneur va chercher quand il viendra sur la terre? Est-ce que vous savez ce qu'il va chercher? Allez, un courageux ou une courageuse. Qu'est-ce qu'il va chercher? Voilà. Quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, si le Seigneur, quand il va venir, il va chercher la foi, alors nous avons tout intérêt à garder la foi. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Pas à lui seulement, à nous aussi, mais à condition que nous gardions la foi. Prions le Seigneur. Seigneur, quelle grâce et quel privilège pour nous de pouvoir nous attabler autour de ta personne, autour de ta parole, et Seigneur, de nous laisser instruire. C'est pourquoi ce matin, nos cœurs sont devant toi pour dire, Seigneur, c'est toi, et toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous désirons vraiment progresser dans cette vie de foi, notre Dieu. Nous avons besoin que tu viennes au secours de notre foi. Nous avons besoin que, Seigneur, tu nous secours, tu fortifies notre foi. Et nous voulons nous attendre à ce que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, continue de se saisir de ces quelques pensées qui ont été partagées afin de nous amener à être pleinement enracinés dans la foi. Afin que, au temps où tu viendras nous chercher, que ce soit le jour, la nuit, Seigneur, que nous soyons gardés dans la foi. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.